بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، après avoir vu quelques textes religieux du Coran et de la Sunna authentique démontrant implicitement et explicitement le bien fondé, l'obligation et l'importance de réfuter le faux, puis après avoir répondu à quelques ambiguïtés répandues à ce sujet, nous allons aujourd'hui voir les principales règles et les primordiaux comportements à observer lorsqu'on réfute le faux. L'explication de ces points est très importante car le manque de compréhension, de maîtrise et d'application de ces points est ce qui a amené énormément de gens à tomber dans des dérives laxistes et extrémistes. Ces nombreux problèmes ont donc énormément porté atteinte à la religion et affaibli la da'wa salafiyya. Ils sont d'ailleurs la principale raison ayant motivé cette série d'allocutions dans l'espoir d'apporter un conseil aux musulmans en général et aux salafis en particulier. Il faut donc savoir que lorsque l'on veut réfuter le faux, il faut impérativement respecter certaines règles et observer certains comportements. Aussi, les points que l'on abordera et expliquera dans ce chapitre sont au nombre de 4. D'abord, les caractéristiques de l'erreur. Après quoi, nous verrons ce que doit remplir celui qui corrige cette erreur. Puis, ceux concernant le réfuté. Et enfin, ceux de la réfutation, c'est-à-dire la méthodologie à suivre et la façon à employer dans la réfutation. Ainsi, en ce qui concerne l'erreur, il faut retrouver 5 caractéristiques. La première est qu'une preuve authentique établisse bien que ce que l'on veut réfuter est une erreur. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ » dit « Apportez-en la preuve si vous êtes véridique. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « أَلْبَيِّنَا عَلَى الْمُدَّعِي » La preuve évidente incombe à celui qui accuse. Avant de réfuter quelque chose, il faut donc s'assurer que c'est bien une erreur religieusement, et non pas le fruit de notre ignorance ou un manque d'enracinement. Malheureusement, certaines personnes s'empressent de réfuter des choses qui en réalité ne le devraient pas, car elles sont confirmées par des textes de religieux du Coran et de la Sunna authentique ou par des paroles de savants. Mais le manque de connaissances et d'enracinement les amène tristement à commettre, eux, une erreur en réfutant par empressement et ignorance ce qui ne doit pas l'être. Il faut donc s'assurer en premier lieu que des preuves authentiques démontrent que c'est bien une erreur avant de réfuter. Et lorsque l'on dit d'avancer des preuves, il faut aussi faire attention à ne pas commettre d'erreur. Car malheureusement, on a pu voir dans des réfutations récentes que certaines personnes ont sous prétexte d'argumenter leur réfutation, partager les péchés commis par leurs auteurs. On a vu par exemple des gens partager des photos de femmes dans des tenues pas assez amples ou longues sous prétexte de vouloir alerter sur cela. Ou encore des gens partager des gens en train de chanter et avec de la musique en fond, comme si cela était nécessaire pour démontrer ce mal et dénoncer les erreurs de cette personne. Il faut donc bien comprendre que lorsque l'on dit d'avancer des arguments, cela veut dire de démontrer que la personne a commis cette erreur, mais en aucun cas de participer à la propagation de ce péché. La deuxième caractéristique est qu'il n'y a pas de différence entre le fait que l'erreur soit dans le domaine de la croyance, du manhaj ou autre. C'est seulement la manière de réfuter qui va être différente. Il est important de préciser cela, car malheureusement, des individus pensent qu'on ne fait de réfutation que lorsque l'erreur est commise dans le domaine de la croyance ou du manhaj. Mais en aucun cas, quand celle-ci est dans le domaine de la jurisprudence, des sciences outils, du comportement ou autre. Et cela est faux, comme le démontrent les nombreuses réfutations de nos savants anciens et contemporains, comme celle du grand savant du hadith de cette époque, Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, concernant l'imam Ibn Hazm et l'autorisation des instruments de musique. Il n'est donc pas fondé de dire que les réfutations ne concernent que ce qui est du domaine de la croyance et du manhaj. comme nous avons malheureusement pu l'entendre de la part de certaines personnes qui se sont vues corriger leurs erreurs. Ils n'ont trouvé à dire comme réponse que les erreurs que j'ai commises ne sont pas des erreurs de croyance ni des erreurs dans le manhaj. Ceci est faux. Même les erreurs commises dans le comportement, l'éthique et autres doivent être corrigées. Que dire alors d'erreurs scientifiques ? La troisième caractéristique est qu'il n'y a pas de différence entre le fait que l'erreur concerne un sujet à propos duquel les savants ont divergé ou non. C'est encore une fois uniquement la manière de réfuter qui va être différente. Et il est important de préciser cela car malheureusement, des individus croient qu'on ne fait de réfutation que lorsque l'erreur est commise à propos d'une question sur laquelle les savants se sont entendus et sont unanimes. Sans quoi, il faut tolérer la divergence et ne pas la reprocher et voir cela comme une erreur. Mais cela est faux. Comme le démontrent une nouvelle fois les nombreuses réfutations que les savants se sont adressées entre eux concernant des questions sur lesquelles ils ont divergé. Prenons seulement, pour exemple, les réfutations que se sont adressées Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Tawajiri, rahimahumullah ta'ala. Par exemple, dans les préfaces du livre de Cheikh Al-Albani, Jilbab al-Mar'at al-Muslima, dans lesquels il a pu réfuter ses détracteurs et justement dont on fait partie Cheikh Al-Tawajiri. Il ne faut donc pas croire que les réfutations concernent uniquement les erreurs contredisant des questions sur lesquelles les savants se sont entendus et sont tombés unanimes. Même les questions à propos desquelles ils ont divergé, il est possible de trouver des réfutations. Aussi, la quatrième caractéristique est qu'il n'y a pas de différence entre le fait que l'erreur concerne un sujet connu de tous ou non. C'est uniquement la manière de réfuter qui, encore une fois, va être différente. Et lorsque l'on dit « connu de tous », cela veut dire « connu par l'ensemble des musulmans », comme l'interdiction de manger du porc, l'obligation de la prière et autres. Mais ça peut aussi être les questions connues des savants dans une matière en particulier, c'est-à-dire que ce point-là est connu de tous dans cette matière en particulier, comme par exemple un point dans la terminologie du hadith pour les savants du hadith, un point dans les fondements concernant Al-Usuliyun, un point concernant la langue arabe pour Al-Lurawiyun, et ainsi de suite. Donc même dans ces questions-là, on peut voir que effectivement les savants se sont écrits des réfutations. Regardez par exemple la magnifique réfutation que Cheikh Rabi' a écrit pour expliquer que, contrairement à ce qu'a avancé certains innovateurs, le hadith Hassan n'a commencé à être qualifié de tel qu'à partir de l'imam At-Tirmidhi. Et que même si avant cela, certains savants ont utilisé le terme Hassan, ce n'était pas dans ce sens. Ce n'était pas dans le sens connu et déterminé par l'imam At-Tirmidhi. C'est-à-dire un niveau intermédiaire entre le hadith authentique et le hadith faible. Non. Donc peu importe que l'erreur soit commise dans un sujet connu de tous ou non, elle doit être réfutée. Mais c'est uniquement la manière de réfuter qui va être différente. Enfin, la cinquième caractéristique est qu'il n'y a de différence entre le fait que l'erreur soit répandue, partagée ou non. Il n'y a pas de différence dans cela. C'est uniquement la manière de réfuter qui va être différente. Précédemment, nous avons vu que l'une des raisons motivant et légitimant la réfutation est de ne pas laisser se propager le faux sous l'apparence du vrai. Donc peu importe que l'erreur soit répandue ou non, elle doit être réfutée. Seule la manière de la réfuter va, elle, être différente, et cela en fonction de toute une multitude de critères, tels que le sujet dans lequel celle-ci a été commise, sa gravité, son ampleur, son auteur et autres. Voilà donc les 5 critères à observer concernant l'erreur dans une réfutation. Après cela, nous avons mentionné celui qui corrige l'erreur et les qualités dont il doit être doté. Celles-ci sont au nombre de 4. La première est que celui qui fait la réfutation de manière indépendante doit être un savant enraciné. Par contre, s'il ne fait que transmettre les dires des savants, il n'a pas besoin alors de faire partie d'eux. Il est important de préciser ce point, car on peut se poser la question suivante. Faut-il être un savant pour réfuter le faux? Ou en d'autres termes, est-ce que seuls les savants ont le droit de réfuter le faux? Ceci est d'ailleurs une ambiguïté sur laquelle certains s'appuient pour refuser les réfutations. D'autres, en revanche, ont mal compris les paroles des savants et pensent que n'importe qui peut faire des réfutations. Comme dernièrement, on a malheureusement pu voir certains mettre en avant une parole de Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, disant qu'il n'est pas une condition d'être un étudiant ou un savant pour faire des mises en garde et des réfutations, mais que l'essentiel est d'avancer des preuves. Sachez alors que ces deux pensées sont fausses, car la réponse à cette question, faut-il être un savant pour réfuter le faux, ou encore, est-ce que seuls les savants ont le droit de réfuter le faux? La réponse à cette question doit être détaillée de la façon suivante. Si celui qui réfute le fait de manière indépendante, il doit alors être un savant enraciné. Alors que celui qui ne fait que transmettre les dires des savants, il n'a pas besoin d'être un savant lui-même. Et le manque de compréhension et d'application de ce point est ce qui a tristement causé de nombreux troubles dans la communauté francophone. Des gens de la masse qui font des mises en garde de leur propre chef sous prétexte qu'il ne faut pas laisser se propager le faux et qu'il ne faut pas être un savant pour corriger le faux. Des individus, en revanche, rejettent les réfutations car elles ne sont pas faites par des savants. Voilà une des raisons qui a semé le plus de troubles ces dernières années. Et il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir les dégâts de cela. Il faut donc mettre fin à ceci et bien comprendre que seul le savant enraciné a le droit d'émettre des mises en garde et des réfutations de son propre chef, de lui-même, indépendamment, sans retourner aux gens de science. Alors que la personne de la masse et l'étudiant, ils doivent se référer aux savants lorsqu'ils veulent réfuter. La deuxième est que celui qui réfute, lorsque celui-ci est un étudiant en science, il peut le faire de manière indépendante quand l'erreur est en lien avec un domaine connu de tous. Et il est important de préciser cela et de le séparer du point précédent pour ne pas les confondre. Ici, il s'agit de condamner une erreur connue de tous, comme par exemple l'appel à l'abandon de la prière, à la révolte contre les gouverneurs et autres péchés et innovations connus. Pour condamner cela, il n'a pas besoin d'être un savant. Il faut simplement faire attention à la manière à employer pour réfuter. La troisième qualité à remplir est que celui qui réfute doit observer le comportement et les critères appropriés à la réfutation. Et nous verrons ce point bien en détail plus tard. Mais afin de comprendre à quoi il est fait allusion, il faut savoir qu'on ne réfute pas tout le monde de la même manière. En fonction de l'individu, si c'est une personne de la masse, un étudiant, un innovateur, quelqu'un qui s'obstine dans l'erreur, on va alors utiliser une méthode pour le corriger et dénoncer ses erreurs. Mais aussi le sujet dans lequel l'erreur a été commise, sa gravité, son ampleur. Est-ce qu'elle est répandue ou non? Il faut donc comprendre que toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte dans la réfutation pour corriger correctement. On ne coupe pas la jambe d'une personne sous prétexte qu'elle a le pied infecté, mais on prend le remède adapté pour résoudre l'infection. Il en est de même avec la réfutation. Toute erreur n'est pas à corriger de la même manière. Dans certains cas, il faudra utiliser la sévérité, alors que dans d'autres, il faudra faire appel à la douceur. Et cela en fonction de toutes ces caractéristiques que nous venons de citer et que nous verrons plus en détail plus tard, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et la quatrième est qu'il n'est pas une condition que celui qui réfute soit d'un niveau supérieur ou égal à celui qui commet l'erreur. Encore une fois, il est important de préciser cela, car malheureusement, certaines personnes prennent cette ambiguïté pour rejeter les réfutations. Quand un étudiant est réfuté, certains tentent de le défendre en disant « c'est un étudiant alors que toi, tu n'es personne, tu n'as pas étudié ». Pareil, lorsque une personne de science est réfutée, certains tentent de le défendre en disant « c'est un savant, il est connu, il a été recommandé par un tel ». Alors que celui qui le réfute n'est pas connu, ce n'est qu'un petit. Il faut donc bien comprendre ce point et savoir que si on prend cela pour une règle établie, c'est-à-dire si on en fait un fondement, une règle, de sorte que l'étudiant en sciences, par exemple, ne peut pas réfuter le savant, car cela est contraire à la religion et interdit, cette compréhension est fausse. Car l'erreur reste une erreur qui doit être réfutée. Peu importe de qui elle provient. Personne n'a le droit de rejeter la vérité par rapport à son statut. On accepte la vérité même du non-musulman, même du pervers. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé Abu Hurayra radiallahu anhu de garder la zakat de Ramadan et qu'il lui raconta que quelqu'un était venu puiser à pleine main dans le tas des denrées et qu'il l'avait saisi mais qu'à chaque fois il le relâchait par pitié. À la troisième fois, alors qu'Abu Hurayra radiallahu anhu l'avait encore saisi et le menaçait de le faire comparaître devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répondit « Lâche-moi et je t'apprendrai des mots qui te seront utiles. » Quand tu te mets au lit pour te coucher, récite Ayat al-Kursi en entier. Si tu récites ce verset, tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah, aucun démon n'osera s'approcher de toi jusqu'au matin. Quand Abu Hurayra radiallahu anhu a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé des mots qu'il lui avait appris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Sadaquka wa huwa kadhub » ce qu'il t'a dit est vrai alors que c'est un menteur de nature. En parlant de shaitan. Donc peu importe que celui qui réfute l'erreur soit d'un rang inférieur de celui qui l'a commise, peu importe que l'erreur soit commise par un savant ou un étudiant ou un prédicateur ou autre, c'est la manière de la réfuter qui va, elle, être différente, et cela en fonction de toute la multitude de critères que nous avons brièvement mentionnés précédemment. En revanche, si la personne tient ses propos, c'est-à-dire que lorsqu'elle voit une réfutation, elle demande qui est-ce qui l'a faite, si c'est un savant ou non, qu'elle se renseigne sur celui qui a fait cette réfutation. Mais cela dans l'intention de considérer les intérêts et les préjudices, ou comme une question de discipline et de respect des rangs. Dans ce cas, ces propos sont acceptables. Ikhwatil Kiram, nous venons donc de voir dans cette allocution l'explication des deux premiers des quatre points principaux à respecter dans une réfutation. C'est-à-dire, nous avons vu aujourd'hui, justement, les points concernant les caractéristiques de l'erreur et ceux que doit remplir celui qui corrige cette erreur. Aussi, lors de la prochaine intervention, nous verrons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala le détail du reste de ces quatre points, à savoir ceux concernant le réfuté, ainsi que la méthodologie à suivre et la façon à employer dans la réfutation. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين